Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat. Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.
Bonjour à tous, nous sommes au congrès des conservatoires d'espaces naturels. J'ai le plaisir de recevoir pour le conservatoire de Nouvelle-Aquitaine Gérard Magnaval qui est administrateur et qui est accompagné d'Antoine Beignot, chargé de mission de gestion des sites, et Marie Auré qui elle est responsable du service scientifique et technique du conservatoire de Haute-Savoie. Bonjour à tous.
Bonjour.
Nous allons parler aujourd'hui de l'articulation entre la préservation du loup et du pastoralisme. Pour commencer, peut-être que vous pouvez évoquer les spécificités de vos conservatoires et les enjeux autour de cette question de l'articulation entre préservation du loup et préservation du pastoralisme.
Je propose de commencer par une présentation du contexte limousin. Donc l'apparition du loup en France comme en Limousin et son impact sur l'élevage sont des sujets assez complexes, qui sont assez controversés. Donc les autorités qui nous appuient et les organisations de protection de la nature que nous représentons travaillent à trouver un équilibre entre la préservation du loup en tant qu'espèce protégée et la protection des éleveurs et de leurs troupeaux. Dès lors, il convient de se positionner entre le champ scientifique d'une part, c'est-à-dire le rôle que peut apporter une espèce protégée dans un écosystème et avec la prise en compte, en l'occurrence, de la biologie et de l'éthologie du loup. Et de notre côté, le champ sociétal, donc je pourrais dire même le champ politique. L'élevage étant essentiel pour le tissu économique et pour l'intégrité des paysages, enfin, c'est fortement notre cas en Limousin, qui fait partie d'un écosystème, mais sur lequel il convient d'adapter des solutions aux spécificités de chaque territoire. Par exemple, on ne devient pas éleveur de moutons en Limousin par hasard. Nos éleveurs ont ce caractère qu'on peut comparer un petit peu à la viticulture, si je peux me permettre. C'est-à-dire, c'est la rencontre d'un homme, d'une race et d'un territoire particulier.
Gérard, vous venez d'exposer les spécificités pour le conservatoire Nouvelle-Aquitaine. Marie, est-ce que vous voulez un petit peu développer comment ça se passe en Haute-Savoie, puisque visiblement, il y a des spécificités en fonction des hommes et des espèces, visiblement, bovines, ovines ou caprines?
Alors nous, dans le contexte au Savoyard, donc on est effectivement un conservatoire d'espaces naturels qui est la particularité aussi de gérer des réserves naturelles nationales qui représentent à peu près 22 000 hectares. Donc on est autant dans un contexte de plaine, on peut avoir de l'urbain et un contexte de montagne avec du tourisme, la présence du tourisme, pas mal de fréquentation. Et un contexte effectivement pastoral qui est aussi qui fait partie de notre culture, hein, le reblochon de Haute-Savoie, on peut l'apprécier. On est dans ce patrimoine tant naturel que culturel et où il y a aussi effectivement le pastoralisme qui a une forte présence chez nous.
Et le loup aussi, je pense, en Haute-Savoie, il est apparu.
Alors le loup, effectivement, alors il est présent depuis 2004 et là, ces dernières années, on a vraiment fait face à On était en front de colonisation et effectivement, on a plus d'une dizaine de meutes sur le département. Donc ça change aussi plein d'habitudes puisqu'on a des agriculteurs pour beaucoup qui étaient des doubles actifs. Donc ils avaient des petits allotements de brebis. Et l'arrivée d'un grand prédateur dans ce contexte-là fait que les pratiques pastorales évoluent. Parce que c'est effectivement quand vous avez des petits troupeaux non gardés avec des gens qui sont double actifs, c'est-à-dire qui peuvent avoir un autre métier la journée, qui venaient voir leurs bêtes le soir, et c'est vrai que ça nécessite d'évoluer et que c'est pas facile non plus, le changement est facile pour personne.
Marie, comme vous le disiez, avec l'évolution et la montée en puissance des loups, on voit que sur la scène française et sur la scène européenne, il y a la possibilité de changer le statut du loup en espèce strictement protégée à protéger. C'est ce qui est prévu dans le futur plan d'action national qui n'est pas encore terminé. Quelle est la position des conservatoires sur ce projet?
Les conservatoires ne se positionnent pas d'un point de vue militant, justement sur ces questions-là. On prend en compte l'existence d'un PNA sur lequel on s'appuie, qui comprend d'ailleurs qu'il y a un volet qui nous intéresse directement, puisque dans le PNA, loup, lynx et protection de l'élevage, il y a la notion de protection de l'élevage. Donc par conséquent, c'est sur cet axe-là qu'on va axer nos forces. Alors effectivement, il est question de réformer ce PNA, mais nous, ce n'est pas notre débat. Nous, notre positionnement qui est du côté de la prévention des systèmes d'élevage et de nos partenaires éleveurs restera identique, quoi qu'il en soit.
Oui, en tout cas, la position des conservatoires, effectivement, c'est aussi de promouvoir la cohabitation. Et je pense que l'action qui est menée au quotidien des SEN au niveau de chaque département, même si le contexte pastoral, environnemental peut être différent, mais c'est quand même de promouvoir cette cohabitation. Et on a montré par le passé que c'était possible. Et c'est vrai que par rapport à ce nouveau plan national d'action, il remet quand même un petit peu en cause cette question de cohabitation. Donc je pense qu'on a intérêt à continuer et que le dialogue se continue entre les différents acteurs et le fait que de montrer que l'action au quotidien, elle est possible.
Alors je vais être un petit peu provoque, mais quel est l'intérêt à avoir des loups, puisqu'ils avaient été complètement décimés sur le territoire français, d'un point de vue de biodiversité, d'écologie? Quel est l'intérêt du loup dans la nature pour avoir envie de cohabiter avec lui?
Alors, il y a plusieurs réponses à la question. Si on regarde par rapport à l'écologie de l'espèce ou la bonne santé des écosystèmes, déjà le loup est revenu naturellement en France à partir de 1992 par l'Italie, via le Mercantour. Et donc, il progresse depuis sur pas mal de territoires, d'abord au niveau des Alpes et maintenant au-delà. Et en tout cas, la présence d'un prédateur, ou en particulier là le loup dont on parle aujourd'hui, sur un écosystème, elle va être bénéfique pour plein de raisons. Par rapport, par exemple, le lien avec les ongulés sauvages, il va y avoir une forme de régulation des populations qui va baisser la pression, notamment sur les petites pousses d'arbres. Donc, il y a plein de l'écosystème est quelque chose de vivant et qui est en lien. Et effectivement, quand on enlève une carte de tout cet écosystème, il y a souvent quelque chose qui dysfonctionne. Et il y a pas mal de publications scientifiques qui montrent aussi d'autres intérêts, qui a même montré récemment l'intérêt de la présence du loup par rapport au risque de collision des voitures contre les sangliers. Et il montrait que la présence d'un loup sur un territoire baissait en fait ce risque d'accident. Après, ça ne veut pas dire que le loup ne pose pas de problème effectivement aux agriculteurs et aux bergers, où c'est effectivement un métier difficile. Et on voit qu'il y a des foyers d'attaque qui se focalisent sur certains secteurs. Et il y a en tout cas une action à mener pour aider cette profession, pour ne pas la laisser toute seule face à cette difficulté.
On entend bien effectivement que ça pose des difficultés aux agriculteurs, que c'est une population que vous êtes amené à aider, notamment pour travailler sur du pastoralisme extensif. Donc, est-ce que vous pouvez retranscrire effectivement quelles sont leurs difficultés pour eux et quels sont les accompagnements que vous pouvez mener?
Oui, moi je peux répondre pour mon conservatoire et même plus particulièrement pour le territoire sur lequel je me trouve, le plateau de Mille Vaches. Donc on est sur les contreforts du Massif central, donc sur un front de colonisation du loup. Comme le disait Gérard, du coup, on a eu des cas de prédation qui se sont manifestés là, depuis 2019. Et puis une présence avérée d'un loup qui s'est fixé sur le territoire à partir de la fin de l'année 2021, qui a suscité pas mal de polémiques et qui a fait beaucoup parler sur le territoire. Donc nous, au conservatoire, on a réagi déjà en adoptant une position un peu politique pour dire que le loup, c'était une espèce protégée, qu'on devait la considérer comme telle. Mais par ailleurs, on travaille énormément avec le milieu agricole. Sur le plateau de Mille Vaches, on est gestionnaire de 2400 hectares. C'est 1000 hectares pâturés, une cinquantaine d'éleveurs partenaires. Donc on peut dire que c'est nos premiers partenaires de terrain. Seulement, en tant que structure gestionnaire de milieu naturel, on n'est pas éligible à d'autres aides dont peuvent bénéficier les éleveurs pour installer des moyens de protection pour se défendre contre le loup. Donc ça peut être installer, renforcer des clôtures, adopter un chien de protection des troupeaux qui va vivre avec les brebis. Enfin, il y a tout un tas de solutions qui existent, mais nous, on n'y est pas éligible. Donc, lorsque le loup est arrivé, le conservatoire a décidé de mobiliser des fonds propres pour équiper les parcs de pâturage, mais selon un de nos moyens. Donc, on a pu, en 2022, équiper deux parcs de pâturage, ce qui représentait environ 4 km de clôture. Du coup, on a continué sur notre lancée. En fin d'année 2022, on a rencontré la sous-préfète de la Corrèze pour lui exposer notre situation, le fait que voilà, on entretenait les milieux naturels via le pâturage, mais qu'on était un peu bloqué, qu'on n'avait pas des fonds illimités. Et donc, on a trouvé une solution avec les services de la DDT de la Corrèze et la sous-préfète, en faisant nous un inventaire de nos besoins en renforcement de parcs de pâturage, c'est-à-dire en électrifiant des parcs de pâturage existants. Et puis du coup, la DDT a fait une demande de fonds d'urgence auprès du ministère de l'Agriculture, ce qui a permis de débloquer des fonds et de nous mettre à disposition du matériel pour électrifier, je crois que c'est 5 parcs de pâturage. On a eu une convention de mise à disposition et de prêt de matériel. Par contre, après, c'est sur notre temps propre de chargé de mission qu'on a installé ça en régie, donc en lien avec nos partenaires éleveurs, et puis en développant des chantiers participatifs, parce que c'est des chantiers qui occupent et qui prennent beaucoup de temps.
Donc vous êtes à la fois médiateur finalement auprès des pouvoirs publics pour obtenir des financements pour les agriculteurs, et vous êtes dans l'action sur le terrain pour pouvoir protéger les pâturages. Et Marie, comment ça se passe pour vous en Haute-Savoie ?
Alors, nous, c'est un petit peu différent puisque, pour le coup, on n'a pas la maîtrise foncière ou d'usage par rapport aux alpages qui sont présents, notamment au sein des réserves naturelles. Et du coup, on s'inscrit dans un dispositif du plan national d'action où on travaille aussi au quotidien avec les éleveurs, mais on contractualise pas avec les éleveurs des réserves naturelles pour entretenir, en tout cas, les milieux. Mais pour autant, on est quand même à leur côté pour les aider face à ces situations de prédation. Donc ça s'est traduit de la même façon, par exemple, par rapport à la mise à disposition de moyens de protection. Ça peut être des fox lights, c'est des systèmes de lumière qui peuvent effaroucher les prédateurs. Et on a pu bénéficier d'un dispositif qui s'appelle le berger d'appui. Donc en fait, c'est un berger que nous embauchons donc à l'échelle de toutes les réserves naturelles de montagne et qui est là en soutien avec les bergers qui sont sur place, les bergers ou les éleveurs bergers. Et il va être là pour aider soit en situation d'attaque, pour rassembler les bêtes, faire de la surveillance de nuit. C'est pas un berger de remplacement, mais c'est vraiment quelqu'un qui va être là en soutien au quotidien. Et donc on a une petite vingtaine d'éleveurs sur les réserves naturelles qui bénéficient du dispositif. Ça fait 3 ans maintenant qu'on développe ce dispositif-là et ils sont tout à fait contents parce que ça approche. Enfin, c'est un métier tellement difficile que toute aide est bénéfique. Et en situation de non-prédation, ils seront là aussi pour aider à remettre des parcs, à aider au déplacement entre quartiers. Enfin voilà, donc ça se passe plutôt positivement.
Oui, je voulais rajouter par rapport aux moyens de protection, il en existe un certain nombre qui doivent s'adapter au territoire et aux pratiques d'élevage. Et il faut aussi avoir en tête qu'il n'y a aucun moyen de protection qui est efficace à 100%. Et c'est plutôt le fait d'en avoir un maximum, donc cumuler ces moyens de protection qui rendent le dispositif efficace. Sachant qu'après, on va dire que ce qui est le plus efficace, c'est la présence humaine. Donc les bergers qui sont là en permanence, c'est vraiment la présence humaine qui dissuade le plus le loup.
Merci. Donc nous avons vu que vous aviez une intervention de terrain, vous intervenez aussi auprès des pouvoirs publics, donc vous avez surtout cité les services de l'État, mais quel est le rôle que peuvent jouer les collectivités comme les communes ou les intercommunalités ou éventuellement les régions pour quand on travaille sur un parc naturel régional? Quel est le pouvoir d'agir par rapport au loup?
Alors le maire, il a une obligation d'information. Et puis c'est lui qui est également responsable et qui est censé savoir s'il y a des chiens de protection, où est-ce qu'ils se trouvent, etc. et pouvoir informer la population.
Par rapport aux chiens, pourquoi il faut informer les populations?
Alors pour ma part et pour ce que je connais, on est sur un territoire qui est quand même assez un petit peu touristique, en tout cas l'été. Et l'apparition du loup et du coup des moyens de protection, notamment les chiens de protection, pose des problématiques aussi par rapport aux randonneurs, parce que ça impose des nouvelles pratiques, c'est-à-dire se promener avec un chien en laisse ou éviter certaines portions de sentier pendant que le troupeau et les chiens de protection sont là, ou bien réagir de la bonne manière quand on est confronté à un chien de protection pour éviter les accidents.
Marie, pour la Haute-Savoie.
Alors, par rapport aux collectivités, nous, on travaille avec eux aussi pour améliorer les conditions d'exploitation. Ça peut se traduire par rapport à la mise en place de cabanes de bergers qui n'existent plus forcément ou qui n'existent pas du tout. Et on a des cas en Haute-Savoie, notamment autour de la communauté de communes de Chamonix aussi, qui ont lancé en fait une étude à l'échelle de leur territoire et qui ont été en soutien de leurs éleveurs pour essayer d'avoir une meilleure idée de la vulnérabilité des troupeaux face à la prédation. Et c'était vraiment aussi aller voir par rapport au triptyque des moyens de protection, donc le berger, le chien de protection et les clôtures, voir s'il y avait des choses à améliorer dans le système. Et du coup, ils mettaient à disposition des experts, à disposition des éleveurs, pour justement discuter, échanger, essayer de voir aussi la situation du loup, pour essayer de regarder dans l'ensemble quel était le risque d'être prédaté et d'améliorer ses conditions d'élevage.
De ce que j'entends, il y a un pouvoir d'information du maire, mais je vois aussi que s'il y a une volonté politique, finalement les collectivités peuvent aller plus loin, puisque dans le cas de Chamonix, donc il y a une étude qui a été menée, donc il y a eu une réelle volonté politique d'appuyer les éleveurs pour pouvoir les accompagner, ce qui n'est pas forcément dans les compétences des collectivités. Par rapport à ça, vous avez d'autres exemples ou d'autres remarques à faire qui pourraient aider les collectivités à réfléchir, à accompagner les éleveurs ?
Mais pour répondre à la même question avec une autre forme de partenariat de collectivité, l'exemple du Limousin, il se trouve que la superposition de la prédation est à peu près l'empreinte du PNR de 1000 vaches. Donc le PNR de 1000 vaches regroupant toutes les collectivités adhérentes à son syndicat mixte se trouve directement concerné et a à ce titre un peu pris le relais de la représentation, tout en sachant que certaines communes très, très concernées se sont également positionnées. Donc l'aspect positif de cette situation, c'est que la décision politique du PNR, 1000 vaches, a été d'emblée d'embaucher une personne qui est une experte des questions de prédation. C'est une chargée de mission qui est d'une ancienne salariée des DT, dans des secteurs très concernés par la prédation, en Drôme de mémoire et en Ardèche. Donc tout ça, ça a été un appui politique assez important qui a permis la mise en place au moins d'un groupe d'entente qui lui est beaucoup plus large, puisque ce groupe d'entente va regrouper d'autres partenaires collectivités, dont les intercos qui sont concernés, mais également les éleveurs à travers des groupements, des syndicats d'éleveurs, des groupements pastoraux, et puis également d'autres associations supports, comme le GMHL par exemple, qui peut mobiliser beaucoup de bénévoles qui viennent en appui justement au renforcement de protection, de la surveillance, des surveillances de nuit, mais surtout qui a l'avantage d'apporter une bonne connaissance sur l'espèce loup.
Très bien, mais écoutez, je vous remercie tous les trois pour ce témoignage sur les questions de la prédation du loup et de ses impacts sur le pastoralisme. Merci, au revoir.
Au revoir, merci.
Au revoir et merci beaucoup.
Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.